ceux qui ont la Bible blanche, le texte retrouve sur la page 690, la Bible blanche. On va revisiter ce texte ensemble. Dans ce texte, Jésus pose une question surprenante à un homme qui est infirme, handicapé depuis 38 ans, couché sous une des portiques d'une piscine publique dans la ville de Jérusalem. « Veux-tu être guéri ?» Bizarre. Quelle personne dans une telle situation n'a pas envie d'être guérie? Mais comme c'est souvent le cas avec la communication de Jésus, sa question a un double sens et concerne plus que le problème d'un handicap physique. Il y a un problème plus profond que Jésus veut traiter et comme on verra dans quelques instants. Ce n'est pas simplement l'homme infirme qui est visé dans ce texte. Veux-tu être guéri? C'est la question que Jésus pose au peuple juif qui attend depuis des années une délivrance messianique d'une situation nationale précaire. C'est la question que Jésus pose à tous ceux qui attendent depuis longtemps une aide, une solution, une réponse, un sauvetage, une guérison, un miracle, et qui se font une idée, une image qu'ils fabriquent eux-mêmes dans leur propre tête, de quoi il s'agira, ce miracle tant attendu, quand enfin il se produira. Donc cette question nous concerne aussi. Et j'aimerais juste prier avant d'aller plus loin dans la réflexion sur ce texte. Bon, c'est un gros chapitre que nous avons devant nos yeux, Seigneur. Il y a beaucoup de contenu là-dedans, très peu de temps. Et donc, nous avons besoin de ton aide, non pas simplement pour comprendre ce qui se passe ici, mais aussi pour saisir le sens pour nous. Quel est ton message pour nos cœurs aujourd'hui? Donne-nous des oreilles pour entendre et même des yeux pour te voir. Encore une fois, nous sommes là, nous voulons voir Jésus. Nous savons que tu nous révèles Jésus dans les pages des Écritures par moyen de ton Esprit Saint. Ouvre nos yeux pour qu'on le voie. En son nom, je prie. Amen. Je ne sais pas si vous le savez, surtout les étrangers qui sont là, peut-être vous n'êtes pas au courant du fait qu'il y a le 15 août de chaque année, il y a plus d'un milliard de chrétiens qui célèbre la fête de l'Assomption. Est-ce que vous avez entendu parler de cette fête? C'est une fête qu'on ne connaît pas très bien, nous, mais apparemment, c'est le moment où, selon les traditions catholiques et orthodoxes, Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel, corps et âme. Et aujourd'hui, en France, il y a des milliers de personnes qui font un pèlerinage à Lourdes, à la grotte de Massabielle, où selon la tradition, Bernadette Soubirous, à l'âge de 14 ans, a vu des apparitions de la Vierge Marie à 18 reprises. Et dans les années suivant ces apparitions, des personnes atteintes de différents types de maladies ont commencé à faire un pèlerinage à ce lieu sacré au moment de la fête de l'Assomption. Et les histoires de guérison qui circulent autour de ce lieu encouragent les fidèles à continuer à venir après année dans l'attente d'une guérison miraculeuse. Et voilà un peu la situation en ce début de Jean chapitre 5, où, au moment d'une fête religieuse juive, un grand nombre de juifs, y compris Jésus, montent à Jérusalem pour la célébration. Il y a des histoires de guérison qui circulent en lien avec une certaine piscine où, selon la tradition, il y a un ange du ciel qui descend de temps en temps pour agiter l'eau. Et le premier qui descend dans la piscine à ce moment-là est guéri. Et comme on voit en verset 5, des nombreux malades qui sont couchés sous les portiques de la piscine attendant l'agitation de l'eau. C'est un homme infirme depuis 38 ans. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en lisant cette histoire, je me pose quelques questions. Depuis combien d'années est-ce qu'il fait son pèlerinage à ce lieu. Ça fait combien de jours de suite qu'il revient à cet endroit en espérant être guéri? Combien d'heures par jour est-ce qu'il passe en attendant, couché sous les portiques de la piscine, en espérant être celui qui va descendre dans la piscine en premier, dès que l'eau commence à bouger? Eh bien, Jean ne répond pas à ces questions. Tout ce que nous savons, c'est qu'en verset 6, Jésus voit l'homme et il sait qu'il est malade depuis longtemps, depuis 38 ans. C'est un peu comme il savait en chapitre 1 de Jean que Nathanaël était sous le figuier. Nous ne connaissons pas grand-chose de cette histoire, mais cette connaissance-là a touché le cœur de Nathanaël. C'est un peu comme il savait en chapitre 4 que la femme samaritaine avait eu 5 maris et que l'homme avec qui il vivait n'était pas son mari. On ne sait pas comment Jésus savait tout ça, mais cette connaissance a touché le cœur de cette femme. Et encore une fois, Jésus y connaît quelque chose concernant la situation de cet homme qu'il rencontre apparemment pour la première fois. En verset 6, et il pose une question à cet homme. « Veux-tu être guéri ?» Et je vous invite à regarder le verset 7 avec moi. On voit la réponse de cet homme qui dit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Vous pouvez imaginer sa situation. Cet homme infirme depuis 38 ans qui a fait son pèlerinage à Jérusalem. Il est là, arrivé au bon endroit. Il est là où, selon la tradition, les guérisons ont lieu. Il est là, à côté de cette piscine, les yeux fixés sur l'eau, en attendant la moindre agitation. Ses yeux sont fixés sur l'eau qui est l'objet de son espérance. Mais il est incapable d'entrer. « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine, » dit-il. Et je trouve assez extraordinaire cette situation-là. Il a Jésus, le Fils de Dieu à ses côtés, mais toute sa préoccupation, c'est avec son incapacité de se plonger dans l'eau de la piscine. « Je n'arrive pas !» Et sa situation me fait penser à la première fois que mes parents m'ont amené à Disney, à Orlando, avec mon petit frère Andy. Et on a fait la queue pour Space Mountain, qui est à cette époque-là le meilleur des manèges, est-ce que vous dites ça? Voilà, roller coasters. On était là pendant des années, mais des années et des années qui passaient en faisant la queue, derrière tout le monde. Bon, c'était peut-être quelques heures, mais quand même, pour nous, c'était une éternité. Et puis enfin, arrivé à la tête de la queue, après cette longue période d'attente, et mon pauvre petit frère n'était pas assez grand pour passer. Il était là, juste devant le moment tellement attendu et l'accès était bloqué. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait tout un tas de choses extraordinaires qui nous entouraient à Disney. Et il ne voulait une seule chose. Il voulait faire Space Mountain avec son grand frère. Et il ne pouvait pas. Et Jean chapitre 5 nous présente un autre groupe de personnes assises à côté d'une piscine, les yeux fixés sur l'eau, en attendant quelque chose de miraculeux. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le texte. Bon, vous ne l'avez pas vu, parce que la piscine, dans ce cas, c'est une métaphore. Leur piscine, c'est plutôt un livre de la loi. C'est un recueil de paroles prophétiques. C'est un récit de l'histoire juive. Et en verset 39, Jésus dit ceci à ce groupe de personnes assises à côté de leur propre piscine. « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Voilà votre espérance. » Jésus dit ceci à un groupe de spécialistes de la loi, des chefs religieux. Et dit « Mais vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. » Et là, je vous invite à imaginer une jeune fille dont le papa, il est en déplacement pour son travail depuis longtemps. Le mois de décembre arrive et sa maman lui dit qu'elle aura un grand cadeau pour Noël. La fille commence à imaginer les différentes possibilités. Et elle s'arrête sur l'idée qu'à Noël, elle aura enfin le petit chiot qu'elle demande depuis le départ de son papa. Elle est sûre que c'est ça le grand cadeau. Elle imagine la couleur du chiot. Elle choisit un nom, Lola. Elle imagine les réactions de ses amis qui seront tellement jalouses. Elle fait des voyages avec son chien dans sa tête, à la plage, en montagne, à Paris. Et dans la joie de son attente de ce petit chiot, elle oublie la douleur de l'absence de son papa. Et puis, le jour de Noël arrive. Et vous pouvez imaginer la situation quand, après 6 mois d'absence, le grand cadeau, c'est papa qui se présente à la porte de la maison, les bras ouverts. Tu m'as tellement manqué, mon cœur. Verset 8 de notre texte dit ceci. « Lève-toi, dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Puis verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs, c'est-à-dire probablement les chefs religieux, spécialistes de la loi, dirent donc à celui qui avait été guéri, « Mais où est mon chiot ? Où est mon chiot ?» Est-ce que vous voyez ça dans le texte ? Non, c'est pas ça en fait. Qu'est-ce qu'ils disent ? Là, je reprends. « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Puis l'homme leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Et là, je vous invite à lire pour vous-même le verset 12. Juste regardez dans vos Bibles le verset 12 de ce texte. Un homme infirme depuis 38 ans vient d'annoncer au chef religieux qu'un homme a guéri son corps et maintenant il marche, alors qu'il y a quelques instants, il était complètement incapable de marcher. Est-ce que vous avez vu la réponse de ces hommes? Ils sont tellement concentrés sur l'objet de leur espérance, la loi de Moïse, avec toutes les petites précisions et les petites clarifications et les annexes ajoutées au fur et à mesure des années, en espérant que peut-être si le peuple obéit à la lettre, la loi de Moïse, alors là, peut-être le miracle, la guérison, la délivrance, le Messie tant attendu apparaîtra. En gros, ces hommes disent à cet homme qui vient d'être guéri par Jésus, « Eh bien, je m'en fiche de ta guérison. Je veux mon chiot !» Et verset 14. Quelque temps plus tard, Jésus retrouva l'homme dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla, annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Bon là, nous aurons vraiment du mal à comprendre ce qui va suivre dans l'évangile de Jean si nous ne saisissons pas les implications des versets 16 à 18 de ce texte et puis le discours explicatif qui va suivre. Donc, regardez avec moi ces quelques versets. Verset 16. C'est pourquoi, et là c'est Jean, l'évangéliste, qui nous donne une petite explication. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir. Parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi, verset 18, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous avez vu ça dans le texte ? Se faisant lui-même égal à Dieu. Et voilà le moment où papa, il prend la petite fille dans ses bras et il dit, c'est moi le grand cadeau. Mon cœur, je suis là. Je suis avec toi, avec tout l'amour débordant que j'ai pour toi. Et quelle est la réponse de la fille? Quelle est sa réponse? Colère. Elle est en colère. Qu'est-ce qu'elle attendait? Elle voulait un chiot. Quand Jésus dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre », qu'est-ce qu'il dit? En gros, « Papa est là ! Papa est là ! Tout ce que le Père fait, je fais pareillement. » Me voir, c'est voir le Père. Entendre ma voix, c'est entendre la voix du Père. Me connaître, c'est connaître le Père. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il est en train d'annoncer et les Juifs comprennent très bien son message. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement ils violaient le sabbat en faisant une œuvre de guérison, le jour où il ne faut pas faire d'œuvre parce qu'il faut se reposer. Mais en plus, il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Comme si c'était Dieu lui-même en chair et en os. Ce n'est pas ce qu'il cherchait. Les yeux des Juifs sont fixés sur l'eau de la piscine, ici, sur les pages d'un livre. Leur espérance est concentrée sur la promesse d'un grand cadeau. Et ce jeune faiseur de miracles, issu de la Galilée, ne correspond pas du tout à l'image qu'ils sont faites dans leur tête du cadeau tant attendu. C'est une question intéressante à se poser. En regardant ces versets, en considérant la situation de cet homme à côté de la piscine, de ces hommes à côté de leur livre, la loi de Moïse, en quoi est-ce que je ressemble à ces hommes en ce qui concerne mes attentes et l'objet peut-être de mon espérance? On reviendra à cette question dans quelques instants. Dans les versets qui suivent, Jésus va confirmer ce que Jean a déjà annoncé dans le prologue, le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Il va parler de deux œuvres que le Père lui donne à faire et de quatre témoins. Ah, je suis désolé, j'ai sauté. Je vais juste faire marche en arrière parce que d'abord, il faut que vous sachiez que comme un avocat devant un jury, Jésus va commencer à construire un argument ici, en fait, au sujet de sa propre identité. Et cet argument sera le sujet principal de ce qui suit dans l'évangile de Jean. Et l'argument se résume avec ces deux phrases en verset 18. « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Jésus dit clairement dans ces versets qu'il est le cadeau de Dieu. Le miracle tant attendu est surprise! Le cadeau, c'est Dieu lui-même. La parole qui existait déjà au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu. La parole en qui il y avait la vie qui est la lumière des êtres humains. La parole qui fait de nous des enfants de Dieu. Cette parole-là s'est faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous pouvons désormais contempler sa gloire en Jésus-Christ. Et donc, c'est là où Jésus confirme ce que Jean a déjà annoncé. Il va parler de deux œuvres que le Père lui donne à faire et de quatre témoins qui confirment son identité. Et j'aimerais juste faire une petite liste rapide de ces choses. On n'a pas le temps pour tout examiner en profondeur. Mais rapidement, on trouve la première œuvre en verset 21. Je vous invite à regarder ce verset avec moi. En effet, c'est Jésus qui parle. « Tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. » Puis verset 26, même idée. « En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ce que fait le Père, fait le Fils. Ce qui a le Père, le Fils, il a aussi. Et dans les chapitres qui suivent, la nature et les contours de cette vie dont il est question ici, ce qu'on appelle la vie éternelle, deviendront de plus en plus clairs. Donc, je ne les développe pas ici. Il y a une deuxième œuvre que le Père donne au Fils, qui se trouve en verset 27, qui dit ceci, « Le Père lui a donné, c'est à Jésus, le Fils de l'homme, aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, dit Jésus, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » En chapitre 5, ce sont les Juifs qui, dans leur colère, jugent Jésus. Chez les chefs religieux qui sont les juges. Ils jugent Jésus comme étant un blasphémateur digne de la mort. On cherche à faire mourir cet homme qui prétend être l'égal de Dieu, le Fils de Dieu. Mais ce que Jésus suggère ici, c'est qu'il y a un jour qui viendra quand, comme on voit dans le prophète Daniel en chapitre 7, Dieu le Père donnera à son Fils, le Fils de l'homme, le pouvoir de juger. Et ceux qui auront écouté ses paroles et cru en lui vivront. Ils auront la vie éternelle, selon Jésus. Et pour ceux qui font le mal, qui refusent le cadeau du Père, qui rejettent le Fils envoyé par le Père, eh bien, Jésus a cet avertissement. Ne péchez plus, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Dans les versets qui suivent, Jésus, dans son rôle d'avocat devant le jury, il appelle 4 témoins qui confirment son témoignage au sujet de son identité assez rapidement. Il va faire référence à Jean-Baptiste dans les versets 33 à 36. Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu », on l'a déjà vu dans les chapitres avant. Jésus a appelé un deuxième témoin. Les œuvres ou les signes que Dieu le Père lui donne à faire. On l'a déjà vu qu'il a changé l'eau en vin à Cana en chapitre 2. Il a guéri le fils d'un officier en Galilée en chapitre 4. Et puis ici en chapitre 5, il a guéri l'homme infirme à Jérusalem. En gros, il dit « Ces œuvres confirment mon identité. Je suis le fils envoyé par Dieu le Père. » Un troisième témoin, c'est le Père lui-même qui a parlé du ciel au moment du baptême de Jésus. On n'a pas cet épisode en Jean, mais les autres évangiles racontent ce moment quand le Père annonce au moment du baptême de Jésus « Voici mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Et puis un dernier témoin dans les versets 39 à 40, le témoignage des Écritures. « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Voilà votre piscine. Mais ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ce qui nous mène à la conclusion de l'argument de Jésus. Dans les versets 41 à 44, Jésus met le doigt sur le nœud du problème en ce qui concerne son auditoire. La vraie maladie pour lui, c'est une maladie du cœur. Il dit ceci en conclusion de son argument, alors que là, il était dans une position de défense jusque-là, il va retourner la situation et maintenant, il a quelque chose à dire concernant la situation de ces hommes juifs. « Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Je vous connais comme je connais l'homme infirme, et comme je connaissais Nathanaël, et comme je connaissais la femme samaritaine. Je connais ce qui se passe dans vos cœurs. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom du Père et vous ne me recevez pas. » Bon, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchent par la gloire qui vient de Dieu seul. Voilà l'essentiel du problème. Comme la petite fille qui, en attendant le retour de son papa, a remplacé dans son cœur l'affection qu'elle avait pour lui avec une autre affection. Eh bien, bon, dans son cas, c'est l'affection d'un chiot imaginaire qui est devenu l'objet de son espérance. Eh bien, comme cette petite fille, les Juifs, en attendant la délivrance de Dieu, la venue d'un Messie, ils avaient remplacé dans leur cœur l'affection, l'amour de Dieu, avec une autre affection, un autre amour. Un amour pour eux-mêmes et pour leur propre gloire. Ils ne cherchaient pas la gloire éternelle qui vient de Dieu seul, mais une gloire qui est plutôt passagère, éphémère, qui vient des hommes. Bon, la question que Jésus pose à l'homme infirme et aux Juifs, c'est la question qu'il nous pose aussi aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Je ne sais pas quelle forme prend ta maladie de cœur aujourd'hui. Mais je suis plutôt certain que nous sommes nombreux à avoir tendance à remplacer dans nos cœurs l'affection de Dieu, l'affection du Père, avec une affection pour autre chose qui prend la place. Nous avons tous nos piscines, nos livres, nos chiots, en qui nous avons mis notre espérance. Et nombreux sont ceux qui se trouvent face à des mauvaises surprises en lien avec tout ça. Notre idée, notre image de ce que Dieu allait faire dans nos vies ou dans nos familles, ou peut-être dans notre formation universitaire, ou dans nos carrières, ou peut-être dans nos quartiers, ou dans nos projets, notre image du cadeau qui nous avait préparé ne correspond pas à la réalité qui se manifeste là devant mes yeux. Et ce texte de Jean 5 nous sert à la fois d'un avertissement et aussi d'une invitation. Et l'avertissement concerne notre propre image, notre propre idée du programme de Dieu, qui est souvent, malheureusement, tordu et perverti par les limites de notre humanité et par l'influence de notre péché. Ces pensées, les pensées de Dieu, ne sont pas nos pensées. Et ces projets ne sont pas nos projets. Et là, je cite Ésaïe 55, « Mais comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondé, avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Il en va de même pour la parole de Dieu, celle qui sort de sa bouche, celle qui l'envoie pour notre bien. Elle ne revient pas à lui sans effet, sans avoir fait sa volonté, ce que lui, notre Père, lui, il désire. Cette parole va remplir la mission que le Père bien confié. Verset 19, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, quelle est l'invitation du Fils aujourd'hui? Avertissement, attention, les amis, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a quelque chose de mille fois meilleur prévu pour vous qu'un petit chiot, que cette piscine, que ce livre. Donc l'invitation du Fils aujourd'hui, c'est une invitation à écouter cette parole qui sort de la bouche de Dieu, à accueillir cette pluie, à manger ce pain de vie qui sort de la bouche de Dieu notre Père. C'est Jésus, et pas la piscine, qui nous guérit de tout ce qui ne va pas, que ce soit dans notre corps, dans nos cerveaux ou dans nos cœurs. C'est Jésus qui nous appelle à nous lever et à marcher, à quitter cette piscine, à oublier le chaud en échange de quelque chose qui est infiniment au-delà de tout ce que l'on peut demander ou imaginer.